Nous vous présentons à l'instant l'art du métier prise 2 avec Daniel Leblon, jésuite, artiste peintre, qui s'entretient avec son invité Jacqueline Rochette, organiste et ancien directeur artistique de Casavant.
Bonjour, chers auditeurs, auditrices. Bienvenue à l'art du métier prise 2. Daniel Leblon au micro. Et très heureux d'accueillir à nouveau Jacqueline Rochette. Bonjour, Jacqueline.
Bonjour, Daniel.
Un mois s'est passé depuis notre dernière rencontre. J'ai eu le temps de pas mal cogiter et d'essayer de laisser mijoter tout ce que j'ai entendu. Il y a vraiment une richesse extraordinaire. Mais savez-vous, une des questions qui m'est venue, ce qui est très particulier, je me dis, après une carrière comme la vôtre, qu'est-ce qu'on fait quand on est à la retraite? Comment vit-on ça, la retraite? Mais ça peut, je pense que c'est un aspect de nos vies qui est très important pour beaucoup de gens dans divers milieux, divers carrières, mais par rapport à un musicien, quand le corps commence à vieillir, la retraite s'installe, etc., etc., comment on vit ça?
Bon, disons que c'est une adaptation. Il y a plusieurs deuils qui doivent se faire. J'ai eu la chance d'avoir une double carrière. Une carrière de facteur d'orgue chez Casavant. Donc, j'étais très actif avec plusieurs clients que je rencontrais. Nous planifions ensemble les projets, la création de nouveaux instruments selon les besoins, etc. Et ma deuxième carrière, c'était comme organiste, concertiste. J'ai aussi fait beaucoup de travail liturgique dans les églises. Donc, en arrivant à la retraite, il y a eu, je dirais d'abord, un arrêt chez le facteur d'orgue. Alors, là, ça a été... il a fallu apprivoiser. Du jour au lendemain, le travail s'arrête. On aurait souhaité que je puisse continuer un peu chez Casavant, mais en même temps, je sentais que j'avais fait mon temps et puis j'avais pas un rôle de belle-mère à retourner puis à regarder qu'est-ce qui s'est passé puis comment ils font ça puis contrôler. Alors je voulais pas intervenir à ce niveau-là et puis ça a été finalement un choix de dire ben c'est la meilleure chose à faire, c'est d'arrêter. Et là il se crée un vide et j'ai vraiment tourné en rond en me disant mais qu'est-ce que je vais faire. En même temps arrive la pandémie et j'ai eu une arthroplastie complète au niveau du genou droit. Alors, ça a été un arrêt colossal en ce qui me concerne, et à me demander, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Et là, bon, il y avait toujours le travail de culte qui était possible, mais dans une situation où, présentement dans les églises, nous parlons de fermeture, nous parlons de réorganisation, je sens les communautés complètement décontenancées, qu'est-ce qui va arriver, désemparées, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on va faire. Et j'essaie de trouver un rôle dans tout ça pour la continuité, comment je vais faire pour avancer là-dedans. Et puis, à Saint-Hyacinthe, ben, y a beaucoup de réflexions. Les communautés religieuses, une après l'autre, ferment. Les églises aussi vont fermer une après l'autre. Et je regardais tout ça, et puis la ville a un pôle culturel où on parle d'un centre d'archives, on parle d'un futur musée d'art contemporain. Alors, je me suis dit, peut-être que je vais trouver, dans tout ce qui se prépare, peut-être que je vais trouver matière à me nourrir là-dedans. Et c'est à ce moment-là que je me suis impliqué au Centre Expression. J'ai collaboré avec le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. Et puis, je me suis impliqué au niveau du regroupement d'archives du diocèse, de manière à comprendre, de manière à saisir les mouvements dans tout ça. Et ça m'amène à être, je dirais, quasiment plus actif que j'étais quand j'étais au travail. Mais c'est valorisant en ce sens que j'ai l'impression de saisir un petit peu tout ce qui se prépare et puis de voir avec ces groupes-là comment on peut cheminer là-dedans. Comment je peux, par l'art, par l'orgue, par la musique, comment je peux exprimer une continuité, je dirais un élan de confiance dans tout ça.
C'est ça. Donc, ce désir ou cette implication au niveau de la culture, elle se modifie, mais elle se continue.
Elle se continue.
Ou là, tu peux apporter aussi ce que tu as vécu, ton expérience, mais dans un mouvement actuel, d'actualisation important.
Exactement. Et il s'est produit en même temps. Et c'est toujours de ce que je me dis. On dit des fois que les choses se font bien à temps, mais on a eu, dans tout ce mouvement-là, on a eu l'occasion de restaurer le vieil orgue Casavant Opus 9 qui était autrefois dans l'église anglicane de la Colle. Ben, on a pu le restaurer et l'installer comme pièce centrale dans la chapelle du monastère du Précieux Saint, lequel monastère est désaffecté, appartient à la ville et éventuellement la ville va en faire un centre d'archives ou de...
Bon, il y a un mouvement de transmission, on dirait. Hein? Après, à la fin, une vie active, c'est comme tu dis, tu es aussi actif que tu l'étais avant. Mais quand on prend la retraite, il y a comme, pour moi en tout cas, il y a un désir de transmettre. Puis quand on a la chance de trouver un véhicule pour transmettre, là, c'est extraordinaire parce que actuellement, c'est une situation problématique, la transmission de ce qui s'est vécu, non pas pour revenir en arrière, mais pour justement régénérer justement des voies de pour aujourd'hui.
Si nous oublions le passé, comment allons-nous cheminer dans l'avenir? Mm-hmm. Si nous nions le passé, qu'est-ce qui va nous rester? Alors il faut être en mesure de connaître ce passé. Il faut se reconnecter à des rituels qui étaient importants et les comprendre. Et pour la nouvelle génération, c'est une nourriture qui va permettre la suite.
C'est ça. C'est comprendre le passé, pas pour le restituer ou pour le continuer, pas du tout, mais pour s'en inspirer. Parce que comme créateur, on est... Moi, personnellement, je suis plus inspiré par l'aujourd'hui que par le passé. Le passé m'inspire pas vraiment, mais à quelque part, il fonde ma sensibilité pour aujourd'hui. C'est vraiment important. Je sais pas comment on peut créer sans avoir cette conscience de ce qui s'est passé avant nous.
Oui. Dans le monde de l'orgue, le monde de l'orgue existe depuis des millénaires. On a commencé à faire des instruments en Grèce quelques siècles avant Jésus-Christ. Donc, c'est un instrument qui a beaucoup évolué et qui a un cheminement gigantesque. Quand on connaît l'histoire, c'est incroyable. De retourner, revoir les vieux instruments, de comprendre les motivations de la création à l'époque, de saisir comment on entendait ces sons-là et comment on les interprétait à l'époque. C'est fascinant.
Et inspirant.
Oh oui. Je prends un instrument créé en Allemagne. Eh bien, ces gens-là parlent allemand, ils écoutent les consonnes à leur manière et ils font les orgues et la musique à leur manière. Nous avons la même chose en Angleterre, en France. Au Canada, nous avons nos particularités aussi. C'est vrai que nous avons un accent et nous avons un accent dans l'orgue. Les Américains ont aussi un accent qui est plus rond, qui est plus lourd, mais voilà, ça s'exprime dans les instruments. Nous avons des richesses et de découvrir comment tout ça a évolué au cours des décennies, c'est incroyable. Les influences qu'on a de différents pays, au départ, une influence chez Casavant qui était plus classique et qui s'est modifiée vers un monde plus anglo-saxon qui nous dominait. Un retour dans les années 60, un instrument plus classique, et puis une redécouverte de nos racines françaises, de l'orgue français, pour aboutir aujourd'hui à un instrument qui est très moderne, mais qui est de chez nous. Non, et on continue.
Mais l'histoire de l'art est truffée de ça, de gens d'artistes qui ont trouvé un déclencheur dans l'histoire et qu'ils ont amené à créer des choses complètement nouvelles, mais le déclencheur se retrouve dans l'histoire, soit de l'instrument ou soit de l'expression artistique auquel ils sont accrochés. Encore de la musique un peu. Qu'est-ce que vous en disiez?
Bon.
Pouvez-vous nous présenter une nouvelle pièce musicale?
Une nouvelle pièce musicale. J'aimerais à ce moment-ci présenter l'aria de Dan Locklear. C'est une pièce commandée par Casavant lors de, pour célébrer le 125e de l'entreprise. Alors, Dan Locklear a créé un diptyque, In Mystery and Wonder, et j'ai créé cette pièce-là au grand orgue de l'église Saint-Nom-de-Jésus à Montréal en octobre 2004. Et c'était une toute première, donc le premier mouvement, c'est un air plus léger, plus doux, mais on entend vraiment chanter le thème, et ce thème-là, voilà, c'est une célébration avec des couleurs d'une entreprise qui a 125 ans.
Nous sommes de retour avec Jacqueline Rochette, organiste, musicien, homme d'expérience. Hein? Nous venons de toucher à des aspects de la vie de beaucoup d'entre nous, cet aspect de passer à autre chose. Ça se trouve, quand on est des créateurs, ça évolue, tout change, on reste des créateurs. Et comment on peut s'inspirer du passé, c'est d'une richesse extraordinaire. J'aimerais, Jacqueline, que vous nous parliez un peu, parce que l'orgue, c'est rattaché nécessairement, et dans votre histoire, c'est directement rattaché nécessairement aux églises, aux rituels. J'ai une sensibilité particulière pour les lieux sacrés, et je trouve que probablement que vous aussi, vous avez cette sensibilité-là. C'est pour ça qu'on approfondisse un peu qu'est-ce que ça fait de jouer, parce que vous avez fait des concerts aussi, bon, dans des lieux différents, mais jouer dans une église, jouer au cœur d'un rituel. Des fois, les gens écoutent la musique d'orgue, puis sans saisir tout ce qu'il y a comme expérience, comme défi, comme participation. Moi, ça m'est arrivé de dire à des organistes à la fin d'une cérémonie, publiquement, merci d'avoir concélébré avec moi, c'est... Non, mais parce que, tu sais, je pense à Madame Le Tendre, que j'aimerais souligner, cette femme qui a marqué ma vie, cette grande organiste, on concélébrait ensemble. Donc, j'aimerais ça qu'on apporte ça un peu. Toutes ces années à jouer dans une église, au cœur des rituels, dans un monde de perte de rituels, justement. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter là-dessus?
J'ai été choyé de jouer dans des églises parce que ça m'a permis d'approfondir au niveau des rituels liturgiques. J'ai été... J'ai pu jouer à la cathédrale de Québec. J'ai été directeur musical à l'Église unie Chalmers Wesley. J'ai joué à la cathédrale de Saint-Hyacinthe. Et je me souviens très bien, à certains moments, après des moments de méditation de m'être dit, vraiment, il se passe quelque chose au-delà des mots. Et j'aimerais bien pouvoir continuer cela dans des lieux d'une façon longue. C'est sûr qu'au début de ma carrière, je m'attendais pas à ce que je jouerais dans des églises, dans une même église pendant 50 ans comme des gens le font. J'ai été choyé de jouer dans plusieurs lieux, mais encore aujourd'hui, je me retrouve à faire de la musique pour des moments précis de l'année, que ce soit l'Avent, que ce soit le Carême. Bon, la musique est moins festive dans le Carême, mais en même temps, c'est des moments qui sont très, très intenses. Et le choix musical qui s'offre à moi, on a des compositeurs qui ont fait des musiques appropriées pour ces temps liturgiques. Les choix sont gigantesques. Et on peut les reprendre, les découvrir et jouer les œuvres proprement écrites pour des temps. Et ça contribue, personnellement, ça contribue à un enrichissement incroyable. Ça me permet de saisir davantage ces rituels, tous ces textes, qui autrement n'auraient pas autant de profondeur pour moi.
Et les rites, le rite de l'année. Hein?
Le rite de l'année.
C'est, et tout c'est ça, très, très fort dans la liturgique, ça.
Très fort. Et l'année A, l'année B, l'année C. Alors, il y a des particularités. Et on en vient même à établir un choix de pièces qui va être plus approprié pour tel moment de telle année. Et c'est un travail de toute une vie, finalement, qu'on ne termine jamais. On fait des choix et on va dire, par exemple, moi, je préfère cette pièce-là. Bach l'avait composée pour la Pentecôte. Alors, je garde, par exemple, la toccate de Bach. Il l'avait fait pour la Pentecôte, je la garde pour la Pentecôte. Vraiment, c'est un moment où les langues de feu s'expriment dans cette descente. Alors, des découvertes comme ça.
Il y a les moments de l'année, mais les moments de la vie aussi.
Oui.
Ça, le rituel, puis la musique, même au niveau profane, la musique nous accompagne dans nos moments de vie d'une façon différente. Hein, quand on est dans des moments plus difficiles, des moments plus heureux. Puis il y a aussi, au niveau rituel, quand on décide de s'unir dans l'amour, ou bien quand on termine notre vie, c'est tous des rituels qui sont différents, d'une richesse extraordinaire. Mais la musique, au cœur de ces rituels-là aussi, est en mouvance, est différente.
Elle est différente et notre société évolue et ses choix musicaux évoluent aussi.
C'est ça.
Alors, je suis pas là pour dire si c'est bien ou pas bien, mais dans les rituels que j'aime découvrir, il y a de cette musique qui est si riche, si intense, si appropriée. Je pense, quand nous avons des services funèbres, des funérailles, il y a au répertoire d'orgue des pièces absolument superbes, pleines de confiance, pleines de foi,
de vie,
pleines de vie. On peut tout simplement prendre ces pièces-là, les jouer. Et les gens écoutent ces pièces, ils trouvent un apaisement et ils trouvent aussi, je dirais, sans être capable de dire des mots, vont même faire des actes de foi en la vie, tellement la musique va aider à ce passage.
C'est que la musique, comme beaucoup de disciplines artistiques, s'adresse à toute la personne. Pas seulement son aspect rationnel. C'est quand on se retrouve dans des moments de vie comme, mettons, la mort, ou l'expression de l'amour infini qu'on a pour quelqu'un, on peut pas le faire uniquement avec sa tête, là. Donc, dans ces cérémonies-là, la musique est d'une importance, mais... Puis dans les liturgies aussi, on a tellement mis l'accent sur l'homélie du prêtre qui devrait nous donner un sens. Bon, ça participe au sens de notre vie, mais tout le reste, les gestes, La liturgie, c'est la plus belle expression artistique qui existe. Moi, je trouve, ça s'adresse à l'ouïe, ça s'adresse au regard, ça s'adresse à notre être en entier, notre corps et tout, et tout. On bouge. La manière dont on bouge pendant une liturgie, c'est incontournable, c'est essentiel.
Mais aujourd'hui, on fait fi de certains rituels. On les oublie. On les laisse de côté. Je vais faire un aparté. Le premier rituel qui m'a vraiment le plus marqué, je devais avoir 6 ans. Et c'était chez mon oncle. Et c'était la journée où on faisait le ménage du hangar. Tout le rituel d'approche, aller chercher le cheval avec la voiture, placer ça devant le hangar. Et on a évalué ce qu'on devait conserver et ce dont on pouvait se départir. Et là, je veux dire, toute la famille était là. Il y avait une manière de faire, c'était quasiment sacré.
Mmh.
Et puis, bon, à 6 ans, je regardais ça, puis je me disais, bon, quand même, ils en mettent pas mal. Mais aujourd'hui, on garoche tellement de choses en oubliant l'importance des gestes qu'on fait. Et on se déconnecte de la réalité.
Puis pour être honnête, il faut dire que pendant des années, peut-être on a répété ces rituels-là en les vidant de leur sens et de leur beauté.
Exactement. On les faisait par coutumance.
C'est ça.
On les fait, on les fait, on les fait, et on ne vit plus. Et après ça, il ne faut pas se surprendre que les gens ne sont plus réceptifs, mais il n'y a plus rien à recevoir. On oublie les rituels.
Il y a quelques années, on avait vécu au Jésus avec l'Ordre Casavant, je ne dirai pas tous les détails, mais avec un organisme très, très, très commercial qui a créé un événement pour faire redécouvrir aux jeunes l'orgue. Il y a eu 1000 jeunes, à peu près 1000, je pense. Il n'y avait plus de bain, il y avait de l'herbe artificielle, les gens étaient tous... Puis il y a eu cet orgue avec aussi d'autres musiques plus actuelles, d'autres instruments. Ça a été une réussite totale. Puis même, moi je me rappelle, les pères qui étaient venus assister, ils avaient trouvé ça fabuleux. Vous savez. Mais je pense que maintenant, surtout avec l'orgue, on n'a plus l'occasion d'être en contact. Parce que les gens ils vont pas à la messe ou bon. Donc quand est-ce qu'ils entendent un orgue jouer? C'est très rare, c'est.
Il faut chercher des occasions, il faut créer des occasions pour le faire entendre. Et si il se présente une journée particulière où on peut mettre en valeur l'instrument, on peut y associer un autre artiste aussi, un chanteur, un trompettiste. On retient... Ça n'a pas besoin d'être très long. Hein.
Mm.
Il suffit d'avoir un bon choix, une belle présentation, de le faire avec authenticité, et les gens vont connecter. Ils vont être touchés par ça.
J'ai une histoire fabuleuse. Peut-être après, on pourra écouter une autre pièce musicale. Un enfant qui a assisté aux funérailles de sa grand-mère, de 2-3 ans. Il a entendu l'orgue. Il a été bouleversé. Puis depuis ce temps-là, il a demandé, il a écouté Bach. Il a toute sa mère le suit, l'accompagne dans ça. Mais il s'est ouvert à l'orgue, puis à l'histoire, à la musique. Puis on l'a fait monter à un moment donné. Il est venu voir l'orgue. Il est venu toucher. Alors c'est fabuleux. Donc ça veut dire que ça parle. Ça dit. Qui nous sommes, quelque part. Ça vient nous toucher dans qui nous sommes.
En tout cas, pour moi, ça a été... l'instrument orgue a été, je dirais, le moyen qui m'a permis de m'exprimer, qui m'a permis de vivre, qui m'a permis de comprendre, d'approfondir le sens de la vie. Et ce même instrument, dans d'autres circonstances, a toujours les mêmes connotations pour moi. J'entends les sons, et pour moi, c'est quelque chose qui est... Ça retient toujours mon attention. Mmh. Comme le premier jour que j'ai entendu un son d'orgue, je me souviens, tout jeune, je me disais, bon, le timbre, il y a quelque chose... C'est vocal. Le vent dans le tuyau, c'est vivant, c'est vocal. Et on l'entend, et ça touche.
Oui, c'est physique. Hein.
Il y a, oui.
Il y a un aspect physique assez extraordinaire. Assez extraordinaire. Bon, mais nous allons peut-être continuer par l'écoute d'une pièce musicale. Donc, pouvez-nous la présenter?
D'accord. Alors, je propose qu'on écoute la toccata de Don Leclerc, qui a été composée pour le 125e de Casava. Alors, j'ai créé cette pièce le 23 octobre 2004 à l'église Saint-Nom de Jésus. Une grande toccata rythmée, moderne, qui fait appel à toutes les sonorités de l'orgue. Et c'est un langage...
Actuel.
Actuel, voilà.
Terminons sur un langage actuel. Jacqueline Rochette, merci beaucoup pour votre présence à l'Art du métier. Sincèrement, c'est touchant et ça fait du bien. Merci beaucoup.
Merci.
Et à
merci
très bientôt.
À très bientôt.
On ira vous entendre dans une église ou je sais pas quoi, mais on ira vous entendre. Merci.
Merci.
À la prochaine.
À la prochaine.
Merci à vous tous et on se laisse donc sur cette pièce musicale.
Vous venez d'entendre l'Art du métier prise 2 avec à l'animation Daniel Leblon, jésuite, en compagnie de Jacques Larochette, organiste. Thank you.